Il y a le bon étranger, celui que tu accueilles les bras grands ouverts. Et il y a le mauvais, celui que tu pourchasses dès qu'il a franchi ta frontière. Il y a le bon, celui qui te sera utile. Et il y a le truand, celui que tu ne veux surtout pas voir arriver dans ta ville. Si tu cherches la brute, va là où on parle dollar cash et pétrole brut. Mais ne cherche surtout pas le shérif. Je l'ai shooté quand il m'a dit qu'il ne défendait que les riches. Oh, yo.
Et oui, c'est un citoyen du monde que nous accueillons aujourd'hui. Bonjour HK.
Salut.
Citoyen du monde, c'est quelque chose qui te va bien. On t'a vu sur les scènes créer des ambiances où les gens se sentent solidaires, se sentent humains finalement, non ?
Ben, nous, c'est un peu cette énergie-là qui nous pousse, qui nous fait avancer, cette idée d'humanité, au sens vraiment le plus noble du terme. Et donc voilà, quand on arrive à partager ça, forcément, on est forcément il y a cette petite fierté parce que on véhicule certaines idées, certains idéaux, certaines utopies, parce que c'est un mot qui est banni aujourd'hui, le mot utopie. On s'interdit de rêver, on se met des barrières mentales en se disant non, c'est pas possible. Et finalement, on est vraiment dans le train-train d'un, moi ce que je dis un monde de blasés, c'est notre monde. Et donc voilà, quand nous, en tant que saltimbanque, citoyens du monde, on arrive à effacer ces frontières-là, même pendant un instant, et puis pouvoir imaginer un autre chemin, possible ou pas, imaginer un autre chemin et se dire qu'on pourrait au moins prendre cette route-là, c'est une vraie fierté, c'est un vrai moteur en tout cas.
Pour créer une chaleur humaine qui fait peut-être défaut actuellement, non ?
Ça brûle pas mal là, en ce moment, la chaleur, elle est de retour, pas exactement comme on l'espérait, c'est vraiment, je te dis, c'est un peu nous, notre rôle de saltimbanque, c'est un peu ça, c'est un peu d'être là sur scène, on se donne en spectacle, et en même temps, c'est pas pour rien, c'est pas gratuitement, entre guillemets, c'est vraiment, on défend quelque chose derrière, donc à chaque fois qu'on va être là sur scène, et puis à s'amuser, à danser, à rire, et puis à chaque fois, il y a aussi cette idée de se lever et d'avancer. Donc c'est toujours ce parallèle qu'on aime bien faire dans la musique, et quand on y arrive, on se donne une vraie, nous-mêmes, c'est une utilité, tu vois, parce que généralement, le saltimbanque, c'est un inutile, il sert à rien dans la société. La société, elle a besoin de docteurs, de professeurs, de policiers en ce moment, surtout de policiers, beaucoup, beaucoup de policiers, mais pas de saltimbanque. Le saltimbanque, c'est vraiment un inutile. C'est vraiment, si à un moment donné, si le saltimbanque était un fonctionnaire, c'était les premiers qu'on ne renouvellerait pas. Donc, c'est un peu, nous, notre rôle, j'allais dire, dans la société, et puis surtout dans ce mouvement de changement, parce que on ose espérer, en tout cas on se bat pour qu'il y ait ce mouvement, comme tu disais, solidaire, unitaire, de changement, d'autre chose, de se dire on est allé au bout de cette logique-là, de l'individualisme et du profit. On voit où ça nous mène et à un moment donné, ça nous mène soit dans le mur, soit dans le fossé. Donc, on peut essayer autre chose. Et puis à la limite, on n'a pas le choix d'essayer autre chose. Donc, il y a cette idée d'incarner quelque chose d'autre. Qui peut paraître parfois farfelu, parfois fou, parfois absurde. Mais comme nous, on tend à penser que c'est le monde dans lequel on vit qui est absurde, moins par moins, voilà.
Alors c'est vrai que dans ce monde, on se prend parfois à désespérer ou à se dire on n'arrive plus à créer cette dynamique de groupe, la relation à l'autre, etc. Et puis finalement, les ruisseaux, continuent quand même de couler grâce à vous et d'autres saltimbanques. Et puis dès que le temps se remet à la pluie, les rivières gonflent.
Ouais, mais c'est cette idée vraiment de... Il y a beaucoup de gens qui, quand on parle, on a tous des moments de motivation, de désillusion, et puis on est tous à un moment donné au creux de la vague où on a le moral dans les chaussettes, où on se dit à quoi bon. Mais quand on prend cette image-là que tu prenais, voilà, de se dire, ben nous, on peut être voilà, un petit ruisseau, même une petite goutte dans un petit ruisseau parmi des milliers de petits ruisseaux qui, à un moment donné, vont converger. Et effectivement, ça peut donner quelque chose de grand, de fort, et puis et que rien ne peut arrêter. Parce que là, tu parles du fleuve et de l'eau, voilà, du courant que rien ne peut arrêter. Donc, quand on a cette humilité-là de se dire, ben nous, on a une petite part à faire, et si on fait cette petite part, on peut espérer qu'il y a des millions d'autres personnes qui, à d'autres endroits et d'une autre manière, vont mettre cette petite goutte d'eau, ça peut faire quelque chose de grand. Donc, et c'est ce qui fait qu'à des moments, voilà, on ne se désespère pas et on continue à verser cette petite goutte d'eau, quoi.
Mmh. Alors, justement, cette participation à ce grand courant qui traverse le temps, qui défie le temps, qui défie la politique, qui défie les modes, qui défie l'économie, on peut dire. Est-ce que tu te sens héritier de ça et d'où ça te vient?
Bah, franchement, alors dire d'où ça me vient, je
sais
pas.
Est-ce que tu te sens des racines très profondes, je veux dire, en remontant dans le temps, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans?
Ouais, c'est. Mais d'ailleurs, dans l'album, bon, on n'a pas la chanson là, mais il y a une chanson qui s'appelle voilà, c'est toujours la même histoire depuis que l'homme est l'homme, depuis que l'homme est loup, et qui dresse un portrait un peu de. Enfin, on remonte à notre manière avec. Le long de l'histoire de l'humanité, et puis avec des images en disant voilà, de la tour de Babel jusqu'au World Trade Center, de ma tour HLM jusqu'à la Grande Muraille de Chine, du mur de Berlin jusqu'au mur de Palestine, et on voit que les schémas sont toujours les mêmes, tant dans ce qui peut nous pousser au défaitisme ou à la révolte, tant dans l'histoire de la résistance. Nous, on se sent héritier de ce chapitre-là, parmi tant d'autres, et avec tous ces anonymes qui se sont battus, et puis toutes ces grandes figures. Ce qu'on dit aussi, on dit en parlant de gens tels que l'émir Abdelkader face à la prise d'Alger, ou d'un grand chef indien qui s'appelait le père Joseph. Et en disant, voilà, tant d'illustres personnes, rebelles et indociles, ils ont tous vécu en héros, mais combien sont morts en exil? Combien de Jean Moulin tombant aux mains de l'ennemi pour un seul Nelson Mandela triomphant de l'infamie. Rares sont les victoires, courts instants de répit, mais tant qu'elles existent, on peut croire que tout n'est pas déjà écrit. Donc c'est un peu voilà, ça résume assez bien la philosophie qui est la nôtre. Quand je dis nôtre, je parle pas des saltimbanques, hein, je parle de ce mouvement de résistance d'aujourd'hui, et qui est là, qui est de se dire de toute façon on est ici, et puis il y a des choses qui ne nous vont pas, et puis on n'a pas d'autre choix que de se battre contre ça, et puis d'avancer, quoi. Donc, quelle qu'en soit l'issue, parce que le combat est au moins aussi important que l'issue. Ouais, bon, après, nous, dans ce qu'on fait, nous... Pour revenir à cette histoire, pour le coup de saltimbanque, c'est quelque part, c'est ce qu'il y a de plus, j'allais dire de plus beau. C'est pas un métier, c'est une passion. On a aussi le beau rôle entre guillemets. Nous, on est sur le devant de la scène, on fait les fanfarons, on donne de l'énergie. C'est assez facile dans ces moments-là et. Sans renier un peu notre travail, la part qui est la nôtre, mais c'est assez la position qui est la nôtre et finalement pas la plus désagréable, loin de là. Donc moi j'aime bien souvent vraiment jamais oublier de rendre hommage voilà aux gens de l'ombre, à ces illustres personnes dans le sens propre du terme, qui sont pour beaucoup personnes en fait. Qui sont des voilà ces illustres anonymes qui se battent au quotidien pour faire changer les choses, chacun à leur poste, chacun à leur niveau, et voilà, et c'est vrai que ces gens-là sont les gens qui pour moi sont l'élite de l'humanité, quoi, sont les gens qui méritent le plus grand respect, parce que souvent c'est des gens qui de toute façon n'ont jamais les honneurs finalement. Quand bien même quand il y a le changement, quand bien même quand il y a une victoire, c'est pas eux qu'on va remercier, c'est pas eux qui vont être sur le devant de la scène, c'est pas eux qu'on va voir, et pourtant c'est bien eux qui auront posé le socle et les fondations du changement. Donc voilà, pour moi c'est ces gens-là qui sont les plus respectables et les plus dignes de louange. Puis après, ce qu'on voit entre guillemets, ce qui s'affiche, pour une raison ou pour une autre. Nous, les saltimbanques, on en fait partie parce qu'on est par définition sur le devant de la scène. Bon, je dis pas qu'on remplit pas notre mission non plus, mais c'est pas, voilà, c'est pas la plus désagréable. C'est vrai que c'est toujours bien de s'en souvenir. Ouais.
Non, c'est vrai que c'est aussi une façon, la scène, d'exprimer des choses plus personnelles. On peut peut-être parler de cette chanson où tu te livres un peu.
Oui, il y en a plusieurs. Moi, c'est vrai que j'ai commencé la musique avec comme une sorte de devoir. Alors, je sais pas, c'est quelque chose qu'on héritait, où on se disait on était obligé en étant né. Dans un quartier, en faisant du rap, on était obligé d'être un rappeur engagé, de faire des chansons engagées. J'ai découvert plus tard que non, finalement, j'aimais la musique pour la musique aussi, j'aimais l'écriture pour l'écriture aussi, j'aimais, voilà, jouer avec les mots, jouer avec les idées, jouer, et raconter des histoires surtout. C'est ce côté conteur. Et donc à un moment donné, c'est rigolo aussi quand tu te mets à raconter ton histoire et de cette histoire qui fait que pourquoi on peut être devenu saltimbanque quand on a grandi quelque part dans un quartier à Roubaix.
Et voilà qu'un jour le hip-hop débarque sur notre planète. À Roubaix, tous les mômes de mon âge sont tombés sur la tête. Breakdance Thomas, moi je dansais comme un robot. Grande gueule, petit bras, j'ai plutôt choisi le micro. Raconter des histoires, c'est tout ce que je savais faire. Sur le devant de la scène, je kiffais à me la jouer gangster. Mon stylo bic, mon revolver, mon micro aux armes, un lance-missile nucléaire. Saltimbanque, c'est devenu mon métier. J'en profite, conscient qu'ici-bas on ne fait tout ce que passer. Je raconte ce que je vois, je vis ce que je raconte. Témoin d'une époque pas banale où seuls les résultats comptent. Je suis un chanteur, un comédien comme le daron. Tout finit comme ça a commencé, l'histoire a du bon. Et quand Machot vient me voir en concert, ça me rappelle quand j'étais minot au marché avec mon père.
Rien n'a changé depuis le jour où j'ai su parler. Maman, s'il te plaît, mets-moi un bon vieux pas parler. Rien n'a changé depuis l'époque de la One Love Nation. Peace, unity, love and having fun.
Voilà, HK et les Saltimbanques sur le disque. Donc HK, ton aventure finalement, c'est une belle aventure, une belle histoire.
Oui, c'était un beau roman, c'est une belle histoire. C'est... ouais, non, mais ouais, on n'est pas à plaindre, c'est clair. C'est clair que voilà, on fait ce qu'on aime et ben, pourvu que ça dure. Après, c'est un statut qui est précaire dans tous les sens du terme, hein, même quand on parle du statut même d'intermittent du spectacle. Donc voilà, on sait que c'est cette image de courir le cachet, et puis c'est une image qui est de plus en plus vraie, surtout aujourd'hui où en temps de crise, ben voilà, la culture c'est toujours la première qui morfle, et une certaine culture, c'est-à-dire la culture alternative, populaire, un peu ce qu'on fait nous. Bon voilà, c'est ce qui morfle en premier, tu vois, qu'il y a pas mal de festoches qui mettent la clé sous la porte, tu vois ça, et puis à côté, t'as un gouvernement qui te dit on sauve la jeune création avec la loi Hadopi, et c'est une vaste fumisterie, parce que les gens comme nous, on fait des disques, mais on ne vit pas du disque, on vit du spectacle vivant, c'est de ça qu'on vit, et quand le spectacle vivant est en danger, ben nous-mêmes, professionnellement, on est en danger professionnellement, s'entend. Donc, si tu veux sauver la jeune création, ben, sauve le spectacle vivant. Et cette histoire de téléchargement, c'est une vraie fumisterie, parce qu'à partir du moment donné où la musique voyage, où les gens viennent au concert, les jeunes créateurs, au sens large, voilà, vivent de leur musique. Par contre, ceux qui ne vivent pas pour vivre du disque, il faut vendre plus de 200 000 exemplaires. Donc, il faut s'appeler Johnny ou Bruel. Donc voilà, c'est une loi qui a été faite pour eux, pour ces gens-là.
Pour l'industrie musicale, c'est clair.
L'industrie, on produit
des choses, après qu'on soit sur scène ou pas, ça n'a pas trop d'importance finalement.
Ouais, et moi ce qui m'a déçu quand il y a eu ce débat-là, c'était que certains artistes de la scène alternative qu'on connaît et dont on sait qu'ils ne vivent pas du disque, c'est ça le pire, sont tombés dans le piège aussi à défendre cette histoire-là de loi Hadopi contre le téléchargement, en pointant du doigt le délinquant téléchargeant, etc. C'est vrai que c'était assez... moi, j'étais assez déçu d'entendre des artistes dits alternatifs prendre fait et cause pour cette loi-là, parce que c'est vraiment une escroquerie, vraiment, dans le sens propre du terme.
Bon, on fera un bilan dans quelques temps, voir s'ils ont progressé, eux, et voir si, de ton côté, tu t'en sors mieux.
Tant qu'il y a du live, c'est que de fait, déjà, on existe artistiquement, et puis après, quand bien même, si on pourrait plus en faire notre métier, je pense que le jour où ça sera plus notre métier, on continuera à monter sur scène pour le plaisir, et moi, ça fait peut-être 15 ans que je vis de la musique, ça fait peut-être... presque 3 ans que j'en vis, donc 3/4 de mon temps à faire de la zik, ça a été en mettant de ma poche et ça me coûtait de l'argent. Donc même quand ce sera plus mon métier entre guillemets, mais je continuerai à kiffer parce que voilà, c'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qu'on sait faire.
Assieds-toi, je t'en prie, Merbebik, fais-nous cet honneur. Cette tente, c'est ma maison. Ma maison, c'est ta maison. D'où que tu viennes, quelle que soit ta couleur, quel que soit ton nom. Notre mémoire, notre livre, la parole de nos anciens. Notre bonheur accueillir comme il se doit celui qui vient de loin. Honte sur nous si un jour tu quittais notre terre en pensant qu'on t'a pas reçu comme notre frère. Toi le voyageur, toi l'étranger, assalamu alaikum. Assieds-toi donc parmi nous, viens manger. Assalamu alaikum. Toi qui as parcouru un si long chemin. Assalamu alaikum. Parle-nous donc du pays d'où tu viens. Assalamu alaikum.
Salam alaikum, Ashka et les saltimbanques. Tu peux nous traduire ce mot?
Salam alaikum, c'est une formule... un peu rituel quand un inconnu, enfin pour se dire bonjour en fait dans les pays arabes, ou quand un inconnu débarque, ça veut dire que la paix soit sur toi, littéralement, que la paix soit avec toi. C'est vrai que cette chanson-là, moi je l'ai écrite suite à un voyage dans le désert, dans le Sahara, donc après avoir rencontré les peuples tamashek, qui ne sont pas des peuples arabes, hein, c'est des peuples berbères, je dirais, donc Touaregs du désert, eux pour le coup, le salam alaikum, vraiment on a été accueillis. On a été accueillis comme des princes. C'est vraiment cette hospitalité des Touaregs. C'est pas une légende, quoi. Et c'est vrai que nous, ça nous avait marqué de voir ces gens qui, au fond, d'un point de vue matériel, n'avaient rien, mais qui donnaient tout. Et c'est vrai que c'est quelque part une leçon, parce que on a aussi, nous, dans nos sociétés sur-civilisées, on a peut-être oublié, perdu des choses en chemin. Et on a peut-être quand même quelques petites choses essentielles, quelques grandes choses finalement à apprendre, voilà, de ces peuples que certains ne considèrent que comme des petites peuplades, des petites tribus entre guillemets. Donc ça a été un moment fort, c'était une grande claque humaine, voilà, une vraie aventure là dans le désert du Sahara, dans le désert du Hoggar. Donc voilà, toutes les voix qu'on entendait au début, voilà, j'ai pris ça en live. Alors j'avais mon ordinateur qui a survécu miraculeusement aux vagues de sable. Et je branchais sur la batterie de la voiture, je branchais un micro et puis on enregistrait ces voix des femmes qui étaient venues un soir quand on était à côté d'un petit village, qui était venu jouer en tapant sur des bidons et en faisant des chants. Ils appelaient ça le tendi. Ça venait d'une tradition lointaine, des temps guerriers. Et voilà, ouais. Du coup, ça a été une vraie grande claque. Et moi, j'en suis revenu, avec cette, avec cette chanson pour rendre hommage à ces gens et à cette manière dont on avait été accueillis et dont on croit savoir les étrangers sont accueillis quand ils viennent là-bas chez eux.
Mmh. Alors, c'est vrai que cette tradition d'accueil, on la retrouve dans d'autres pays, et notamment dans les zones un peu rurales.
Ouais, je pense que c'est une tradition ancienne, la tradition d'accueil de l'étranger. Et je pense pas qu'elle ait des frontières. Je pense pas que ce soit. Après, là, je m'avance moi à titre personnel. Je pense pas que ce soit propre aux peuplades touareg, aux bédouins ou aux gens du tiers monde. Je pense que eux, ils ont perpétué cette tradition-là. Mmh. Et je pense que nous, ici, dans nos sociétés, on a perdu cette. C'est surtout ça, je pense. On a perdu ces valeurs-là qui sont les valeurs humaines de base au final. Et on les a perdus à partir du moment donné où on est parti dans une course. Voilà, à partir du moment où la vie est devenue une course et où il faut aller toujours plus vite, plus haut, plus loin, plus vite que son voisin. Et le voisin, l'étranger, c'est devenu un concurrent. Alors, soit il nous est utile à nous en tant qu'individuellement, ou soit il nous est néfaste. Donc le rapport à l'autre, de ce fait-là, a complètement changé. C'était un virage à 180 degrés. Et donc on a oublié voilà toutes ces valeurs là de simples, basiques et banales de partage, d'échange. Voilà, nous quand on allait rencontrer ces gens et quand voilà ils nous posaient des questions et ils étaient fiers de nous dire eux ce qu'ils étaient, d'où ils venaient, quelle était leur culture, leur tradition, le pays dans lequel ils vivaient. Ils nous posaient beaucoup de questions, ce que je traduis un peu dans la chanson en disant voilà, viens-tu de ce pays où les maisons montent jusqu'au ciel? Et c'était assez, voilà, c'était une vraie grande aventure humaine, ouais.
Alors, toi qui habites en région Nord-Pas-de-Calais, est-ce que tu sens des similitudes, mais des correspondances, cette tradition d'accueil dont on parle dans certains films, hein, je te donne pas les titres, est-ce que pour toi ça correspond quand même à une petite réalité ?
Moi, alors j'ai tendance à croire que pour avoir fait quelques régions de France, notamment par le biais de la musique, c'est vrai que tu te rends compte que et c'est vrai que peut-être dans les coins un peu plus ruraux en fait hein, de notre région tu sens que et même j'allais dire même les coins pauvres. Moi je me souviens de là où j'ai grandi, donc c'était vraiment Roubaix dans le quartier entre guillemets et c'était le quartier de la Potainerie, donc c'est un quartier populaire, vraiment très populaire et voire par certains endroits pauvres. Mais on avait cette chance-là, c'était un quartier mélangé, métissé. Je n'ai pas grandi dans la cité dortoir ghetto comme on pouvait avoir peut-être plus dans les quartiers de l'Alma ou des Trois-Ponts. Et donc il y avait ce brassage-là. Et donc tu avais les familles italiennes qui ramenaient les pots de sauce tomate, tu avais les familles maghrébines dont la mienne, voilà, les gâteaux de l'Aïd, tu avais ce mélange là. Moi je disais toujours derrière chez moi avec les potes tous les soirs, c'était les Jeux Olympiques, c'était France-Algérie, clan d'os reste du monde, Italie-Portugal, voilà, c'est ça le monde dans lequel j'ai grandi. Et donc, tu avais beaucoup d'échanges, beaucoup de partages avec les gens. On savait qu'on avait tous des histoires très différentes et on s'en foutait en même temps. J'allais dire, c'était pas un problème, quoi. Et de ce fait-là, le rapport à l'autre, voilà. Moi, j'ai grandi dans ce milieu-là où tu pouvais facilement t'ouvrir à l'autre et l'autre pouvait facilement t'ouvrir sa maison. Et puis, il n'y avait pas de problème, quoi. Et c'est vrai que après, tu grandis, tu commences à quitter un peu ce pays-là des bisounours entre guillemets où tout était simple et tu te rends compte, que des discriminations, des blessures de l'histoire, des non-dits, des racismes et puis tu te prends pas mal de claques, quoi.
Ce racisme en partie il est attisé, tu crois, il est manipulé, il sert à quelqu'un, quelque chose, il y a des provocateurs, des gens qui en vivent.
Ah oui, ça oui, de fait il y a des gens qui en vivent très bien du racisme je pense que de toute façon dans ces questions là t'as toujours les extrêmes qui sont amis en fait, les extrêmes opposés souvent. ils jouent à un jeu où ils s'alimentent l'un et l'autre, et puis l'un a besoin de l'autre et vice versa. Donc et là il y a un de ces extrêmes là qui aujourd'hui est clairement qui est clairement au pouvoir en France, parce que t'entends des choses, mais on se lâche, hein. Post et Guerlain, cette histoire avec t'as suivi sur le plateau de France 2, je crois, France 3, où il parle des nègres. J'allais dire même, c'est presque, je veux pas dire qu'il y a des racismes moins mauvais que les autres, mais c'est presque le racisme des débuts du 19e, du 20e siècle, quoi, tu sais, des années 1900, racisme colonial brut, quoi. C'est, et donc t'as ça qui ressort aussi. Donc aujourd'hui, vraiment, il y a eu des portes qui ont été ouvertes par le président de la République et ses ministres. À partir du moment où tu as des ministres qui peuvent sortir des propos outrancièrement racistes et xénophobes sans être virés, c'est à un moment donné, tu es ministre de la République. Il faut, alors, les mots, est-ce que les mots ont encore un sens? Est-ce que le mot République a encore un sens? Si oui, dans ce cas-là, tu es viré sur le champ. T'es viré sur le champ parce que tu t'en prends à une partie de la population et que tu sais que ça va alimenter des choses nauséabondes, et tu sais que ben voilà qu'on va en arriver à ça, quoi, à la banalisation des dérapages racistes si on continue. Donc c'est parce que c'est un mouvement, donc aujourd'hui on en est là, et si on laisse faire, ça va être la banalisation des délits bientôt des crimes racistes, quoi. C'est
non, ce que tu dis, effectivement, on sent cette montée d'intransigeance, de rigueur, toujours pour les mêmes, hein, entre guillemets. La France est depuis quelque temps contrée par l'Europe, hein. Finalement, tous ceux qui criaient l'Europe c'est un scandale, quand maintenant l'Europe déclare que certaines décisions françaises ne sont pas dans les normes ou ne sont pas correctes, c'est quand même un garde-fou.
Mais ouais, et j'allais dire ouais non, parce qu'on pensait on pensait que la France était locomotive en Europe sur ces questions-là. La France, quand
elle
même,
aurait dû l'être, hein, parce
quand
que
même,
c'est au départ
la tradition des Lumières, des droits de l'homme. C'est donc quand tu vois que la France est en queue de peloton de l'Europe, et que en Europe t'as aussi des, je veux dire, c'est pas aujourd'hui l'Europe, c'est pas non plus des saints, quoi. Donc c'est que quand tu prends le contexte européen et tu vois qu'en plus la France est à la ramasse derrière, sur dernièrement c'était la question des gardes à vue, l'histoire des Roms, alors là n'en parlons pas, tu dis voilà que clairement c'est qu'à un moment donné le dérapage il est violent, et limite quand on reste dans le contexte franco-français, presque on pourrait ne pas s'en rendre compte, à la limite, imaginons. Mais voilà, donc t'as en plus l'Union européenne qui à un moment donné dit oh, mais qu'est-ce que vous faites là, l'ONU aussi qui a eu des rappels à l'ordre de l'ONU, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc voilà, et à un moment donné, bon, t'as le gouvernement qui dit l'opposition, mais oui, mais c'est des affreux irresponsables, l'Union européenne, mais de quoi ils se mêlent, l'ONU c'est bon, enfin voilà. Donc c'est, on ressent un peu les mêmes mécanismes du pays qui s'isole sur ses certitudes, qui se replie sur des discours nationalistes, 3000%, patriotiques, mais voilà, et façon, ça nous rappelle des heures pas très glorieuses. Donc c'est un peu, moi je fais un peu ce schéma-là de toute proportion gardée, de quant à Israël qui dit au reste du monde, je fais ce que je veux, quoi, et je vous emmerde. Parce que c'est ça, c'est à un moment donné être, se dire, tous les autres ont tort, moi je suis dans mon bon droit, et puis en se repliant sur ses certitudes, en développant ces discours populistes et qui vont plaire à Jean-Marie et à son électorat, et qui vont faire en sorte de gagner des élections. Et puis c'est un mauvais chemin qui est pris, un très très mauvais chemin. On espère simplement pouvoir contrer ce chemin-là et puis pouvoir aller vite tourner cette page et passer à autre chose.
Le président, il a parlé. Il a dit c'est pas bien le chômage. Tous les jeunes, ils doivent travailler. Il a dit faut faire du nettoyage. En France, il y a trop d'étrangers.
t'avais raison. Quand je te dis faut faire attention, ici on n'est pas chez nous, faut pas chercher complications. Et si tu fais les 400 coups, ils vont te renvoyer dans l'avion. J'avais déjà 3 enfants. Eh oui, ma fille, à ton âge, j'avais déjà 3 enfants. Y'a ma fille, y'a ton cousin Doron. Il a environ ton âge. C'est un garçon très sage. D'après ce que m'a dit sa maman, beau garçon sérieux. Garçon, elle a dit ta fille est bêtise, tu vas y aller à la prison. Il y a mon fils, vraiment je comprends pas. Moi je t'ai donné toujours l'amour, j'ai occupé de toi tous les jours. Pourquoi la police elle vient chez moi? J'ai occupé de toi tous les jours. Pourquoi la police elle parle comme ça? La police elle...